Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la chronique Osons l'intime sur Radio Royan Vercors. Ce matin, moi, Claire, je suis en présence de Stéphanie.
Bonjour Claire.
Et on fait toutes les deux partie du collectif Féminin Naissance. Et donc aujourd'hui, Stéphanie, tu vas venir compléter les deux premiers épisodes sur les violences sexuelles faites aux enfants. Et tu vas venir nous partager de nouvelles ressources.
Ouais, tout à fait. Dans le premier épisode, j'ai plus partagé mon parcours de maman et comment finalement des révélations de violences faites aux enfants m'avaient complètement submergée dans ma posture de maman. Et petit à petit, comment j'ai trouvé des ressources pour redevenir plus actrice, pour être plus présente, pour protéger mes enfants et les enfants de mon entourage. Dans le deuxième épisode, je vous ai partagé d'abord des premières ressources, c'est que pour protéger les enfants, c'est peut-être d'avoir être capable de détecter les situations et les personnes à risque. Parce qu'effectivement, on sait que dans 95% des cas, les agresseurs sont connus finalement, sont dans l'entourage. Et donc, on peut en tant que parent peut-être détecter. J'ai aussi rappelé, j'ai envie de le rappeler là, c'est que toutes ces ressources que je vous transmets, c'est vraiment pas pour vous surresponsabiliser, ni surresponsabiliser vos enfants, ni vous culpabiliser s'il y a malheureusement agression. C'est vraiment uniquement pour vous donner des repères. Et je rappelle que seuls les agresseurs sont responsables de ce qu'ils font, seuls les agresseurs sont responsables des violences qu'ils commettent. Et donc, en aucun cas, vous, ni vos enfants, n'êtes responsables d'être victimes. Donc, on a vu trois grands profils d'agresseurs. Les agresseurs qui sont des personnes violentes qui vont juste finalement décharger leur violence, leur agressivité, leur colère, leur frustration sur les enfants. Deuxième profil, qui est plutôt là dans le cas d'inceste, c'est le profil d'un patriarche plutôt dominateur, si on grossit le trait, qui va garder la main sur l'enfant, et l'agression sexuelle est plutôt là pour exercer cette domination. Puis le troisième profil, c'est vraiment les personnes qui sont attirées sexuellement par les enfants, qui vont se rapprocher d'eux et qui vont mettre en place une forme d'emprise, de la distorsion cognitive pour présenter ça sous forme d'une relation amoureuse, consentie, spéciale avec un enfant. Donc voilà, ça c'est les trois grandes situations. Donc, comment agir face à ces situations? Ben, il y a deux manières de faire, hein. C'est l'évitement et le recadrage. Une fois que vous avez détecté ces situations, et puis je vous donne la référence vraiment d'aller plus en détail dans la précédente chronique et puis aussi dans les livres et podcasts de Joanna Smith que je vous mettrai en bas de l'épisode. Une fois que vous avez détecté ces situations potentiellement, eh bien, la première solution, c'est d'éviter. Dans tous ces cas d'hostilité, de domination, de dynamique, ce sont des dynamiques qui sont finalement pas du tout positives pour votre enfant. Donc, une fois que vous avez détecté ça, ben, l'idée, c'est vraiment d'éviter le plus possible le contact entre les enfants et ces personnes-là. De pas confier un enfant à ces personnes-là. Et puis, si ces personnes sont, entre guillemets, incontournables dans votre entourage, c'est vraiment diluer leur présence, ne pas les laisser seuls avec les enfants. Dans le cas d'une pseudo, dans le cas de la troisième typologie, la pseudo-relation amoureuse, on va identifier ces personnes aussi en posant des questions. Par exemple, si vous souhaitez recruter un babysitter, vous allez lui demander ben, « Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec des adultes ou avec des enfants ?» Est-ce que vous avez l'impression de vous sentir un enfant vous-même quand vous êtes avec des enfants? Si le jeune, voire l'ado ou l'adulte répond oui, bah ça peut vous mettre à la puce à l'oreille sur un profil, on va dire, immature. Ça ne veut pas du tout dire que cette personne va être un agresseur sexuel, mais ça va déjà vous donner l'information que bah, cette personne n'est peut-être pas très responsable et c'est peut-être pas la meilleure personne pour confier vos enfants, en fait. Tout simplement. Donc encore une fois, c'est pas un procès d'intention qu'on fait aux personnes qu'on pourrait identifier comme un peu violente, un peu borderline, consommant de l'alcool, un peu dominateur. On dit pas qu'ils vont passer à l'acte et commettre des agressions sexuelles. Mais on identifie juste que c'est pas des personnes avec qui laisser nos enfants, en fait, tout simplement. Et puis, la deuxième manière d'agir quand vous détectez ces situations à risque et ces personnes à risque, c'est le recadrage. Donc, ça peut être simplement montrer sa présence, montrer que l'on veille au grain et que l'on ne laisse pas seul un enfant livré à lui-même ou avec une confiance démesurée auprès d'un tiers, dans une fête, un rassemblement familial, un milieu associatif. C'est mettre une limite aussi à un comportement inadapté, soit parce qu'il est violent, soit parce qu'il est dominateur, soit juste parce qu'il nous gêne en fait. On va se faire confiance, on va sentir aussi dans notre corps ce que ça nous dit, si ça dit oui, si ça dit non. C'est mettre une limite avec des mots, des gestes, même des attentions qui peuvent sur des attentions qui peuvent au départ sembler positives. Hein. Je vous disais que dans le troisième cas, les agresseurs utilisent beaucoup la manipulation pour se rendre indispensable auprès de la famille, rendre des services, faire des cadeaux. Donc même si ces choses-là qui peuvent être positives vous semblent disproportionnées, vous mettre la puce à l'oreille, vous pouvez refuser tout ça. Ça, c'est recadrer, vous positionner. C'est repositionner ses limites. Repositionner les limites de son enfant, ça c'est vraiment envoyer à tout l'entourage et pas seulement la personne à qui vous parlez, c'est envoyer à tout l'entourage l'information que cet enfant est protégé. Et donc potentiellement, les agresseurs aussi qui sont dans l'environnement autour vont entendre ça et vont se repositionner par rapport à l'enfant. Et c'est aussi très intéressant ce recadrage parce que petit à petit, votre enfant vous entendant recadrer les choses va apprendre à se défendre par lui-même. On n'attend pas de lui qu'en tant qu'enfant ou même ado, il se défende par lui-même, mais il est en train d'apprendre des compétences d'adulte, à mettre ses limites et à les faire respecter. Donc ça va être tout simplement « Ben non, moi ça me convient pas que tu prennes ma fille sur tes genoux. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ouvres son sac? En fait, c'est juste pas normal, moi ça me va pas. » C'est pas être agressif, hein, mais c'est tout simplement, avec grand naturel, reposer un cadre clair. Ensuite, la prévention, ça peut passer par l'éducation et outiller les enfants en fonction de leur âge. Il a été prouvé par plusieurs études, et vous trouverez ça notamment dans le très bon livre « Corps, amour, sexualité » que tu m'as conseillé, Claire, faite par Charline Vermont. Il est prouvé dans plusieurs études qu'un facteur de protection des enfants face aux violences, c'est l'éducation sexuelle et l'éducation au consentement. Donc, on retrouve les références dans le très bon livre « Corps, amour, sexualité » de Charline Vermont, que tu m'as conseillé, Claire, merci. Et ça va aussi être protecteur pour les agresseurs, c'est-à-dire qu'un enfant, un ado qui a eu une éducation sexuelle et une éducation au consentement va avoir moins de chances de devenir agresseur. Donc, c'est vraiment un pilier. On peut commencer à la maternelle. À la maternelle, on va pas à proprement parler de violence sexuelle ni de violence parce que l'enfant est trop jeune pour se défendre et donc ça le mettrait dans une balance ressources. Danger beaucoup trop importante pour son âge, mais on va commencer à éduquer à la conscience corporelle, nommer les parties du corps. Pour cela, on va aussi nommer les parties du corps qui font partie de l'intimité, tout ce qui est sous le maillot de bain. On va aussi, quelque part, aider l'enfant à prendre conscience de son corps en commençant à faire prendre conscience que quand ça dit non ou quand ça dit oui à l'intérieur, bah, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est ce qui va servir de base ensuite à construire le consentement. Parce qu'un consentement, si on sent pas à l'intérieur si le feu est vert, orange ou rouge, bah, ça sert à rien en fait. Ensuite, ça va permettre à l'enfant plus facilement de détecter si quelque chose lui semble anormal, le met mal à l'aise, et ça va aussi plus facilement lui permettre de parler. Donc pour ça, je trouve que le livre « Mon corps m'appartient » d'Isabelle Filioza est vraiment très bien fait. C'est un livre qui est dédié aux plus grands, mais par contre, les parents peuvent s'en emparer quand ils ont des enfants plus jeunes et justement capter les outils pour les transposer avec leur enfant qui est déjà à la maternelle. C'est aussi comment identifier que parfois on se sent mal, on ne va pas réagir, mais que ça ne veut pas dire oui, et que ne pas réagir, ça veut dire non. Donc ça, c'est déjà commencer à introduire ce qui se passe quand on a une sidération, un figement lors d'une attaque, une surprise. Donc ça, c'est aussi très important de dire, ben, en fait, quand on peut plus réagir, ça veut pas dire oui, ça veut dire non. Donc ça, c'est des bases très importantes aussi à mettre en place. Ensuite, pour les enfants primaires, on va aller plus loin. On va aller plus en détail sur l'anatomie, parler de l'adolescence, de la puberté, même au plus jeune avant que ça arrive. Pour cela, les petits illustrés de l'intimité sont très, très adaptés. On va entraîner le consentement. on va explicitement faire de la prévention contre les violences de manière globale. Et dans ce cadre, on va expliquer qu'il y a un type de violence particulière que sont les violences sexuelles, qui consistent en des violences touchant les parties intimes, soit de la victime, soit de l'agresseur, soit des deux. On peut expliquer que c'est pour cela qu'il y a des règles mises en place dans la famille, que c'est pour cela qu'on dit que même s'il y a des secrets entre copains, c'est important de pouvoir tout dire à son papa, à sa maman. Et puis, on va concrètement entraîner son enfant à discerner les situations et les personnes qui peuvent être dangereuses, à signaler et à éviter ces situations. Notamment des situations d'emprise, de violence verbale, de violence psychologique. C'est aussi toute la prévention autour du harcèlement qui est incluse là-dedans. On peut aussi entraîner son enfant à déceler comment se mettre en sécurité. Ça, c'est des compétences que l'enfant a besoin d'acquérir. Par exemple, moi, régulièrement, et on le prend sous forme de jeu, on est dans la rue avec les enfants, on attend, et puis là, j'ai l'air de dire, ben, tiens, si vous deviez vous mettre en sécurité, si là, d'un coup, j'étais pas là, vous iriez vers qui ? Vers quel adulte vous vous tourneriez ? Puis on va essayer de voir, ok, est-ce que derrière quel visage finalement je vais associer plus de sécurité ? Quels sont les facteurs ? Moi, c'est très sexiste, mais j'assume le fait que comme 90% des agresseurs sont des hommes, j'ai clairement dit à mes enfants d'aller vers des femmes et principalement vers des femmes qui sont accompagnées d'autres enfants, qui sont des mamans et je leur dis s'ils ont besoin de demander de l'aide. Trouver d'abord ce type de personnes dans l'entourage. C'est aussi montrer aux enfants que s'ils ont peur, c'est mieux d'aller se mettre dans un endroit où il y a du monde que dans un endroit isolé. Des fois, quand on a peur, les enfants, ils vont se cacher. Et moi, je sais que mes enfants, ils peuvent avoir ce réflexe. Et là, je vais leur montrer, ben non, par exemple, plutôt que d'aller se cacher, te cacher dans ce petit coin-là, ben tiens, moi, je verrais plutôt, tiens, va sur cette terrasse de café, va voir telle personne. Et donc, on entraîne nos enfants comme ça. Ensuite, ça peut être les entraîner très concrètement dans des jeux plutôt corporels, physiques, des jeux un peu de bataille, d'attaque. Et tiens, si je te saute dessus, tiens, comment tu te débats ? Est-ce que tu peux arriver encore à crier ? C'est en fait des jeux pour finalement être moins sidéré par la surprise aussi. Savoir que ça peut arriver, qu'on peut agir, on peut crier, on peut. Et donc encore une fois, ce n'est absolument pas pour surresponsabiliser les enfants, mais c'est pour essayer de les outiller et de les rendre plus vivaces, on va dire, pour eux-mêmes être dans le mouvement. Il y a une quatrième manière de protéger vos enfants, donc au-delà d'identifier les situations et les personnes à risque, au-delà de réagir dans ces situations et avec ces personnes à risque, au-delà d'éduquer, il y a aussi mettre en place un comportement et un environnement avec vos enfants qui est protecteur. Il est prouvé, et c'est complètement logique, que si votre enfant vit plutôt globalement dans une ambiance respectueuse, non violente, sécurisante, dans laquelle il est écouté, dans laquelle il a du soutien émotionnel, il se sent pas livré à lui-même, il se sent pas seul, et ben cet enfant va être potentiellement moins victime de violences sexuelles. Pourquoi ? Parce que cet enfant déjà va paraître être moins une victime facile auprès de l'agresseur. Johanna Smith, qui est psychologue clinicienne et qui travaille auprès des agresseurs, a vraiment pu mettre en avant ce profil-là. C'est-à-dire que les agresseurs, même si c'est pas forcément conscient, vont détecter quels enfants sont plus, entre guillemets, plus fragiles. Et donc, vont être potentiellement des victimes plus faciles. Et notamment, il y a les enfants qui sont déjà un peu isolés, qui sont dans un moment de vie où il n'y a pas forcément de soutien à la maison. Donc ça va être un facteur de fragilité. Les enfants qui sont habitués à la violence, comme les violences sexuelles sont d'abord des violences, souvent il y a des violences avant la violence sexuelle, les enfants vont pas avoir trop la puce à l'oreille que c'est pas normal en fait ce qui se passe avec cet adulte, parce qu'ils ont l'habitude d'être dans un environnement déjà un peu violent, parfois déjà un peu manipulateur. Donc ce qui va vraiment être protecteur, c'est de nous-mêmes, et c'est pas le plus facile, mais de se regarder un peu en face et de voir à quels endroits on pourrait améliorer notre relation avec notre enfant, améliorer l'environnement aussi relationnel de notre enfant. Donc ça va être vraiment le pilier, moi je dirais principal en tant que parent. Et donc j'en reviens aussi à ce que je disais dans la toute première chronique, c'est faire un travail nous-mêmes sur nos propres traumas, sur nos propres difficultés à être présent à notre enfant pour pouvoir l'accompagner et le protéger au mieux. Ça va être aussi protéger nos enfants des contenus violents plus extérieurs. Ça peut paraître un peu tellement conventionnel dans notre société, mais tous les contenus sur les écrans, même dans des contenus pseudo pour enfants, moi je suis tellement choquée qu'il y ait des films, des séries qui soient interdits aux moins de 10 ans, alors qu'un enfant de 10 ans, pour moi, n'est pas du tout mature pour voir ce type d'image, par exemple. C'est aussi protéger nos enfants des contenus pornographiques. Il faut savoir que en moyenne, un enfant est exposé au contenu pornographique avant l'âge de 11 ans. C'est pas du tout des contenus qui peuvent être visionnés par des enfants qui ont ce manque de maturité, parce qu'en fait, ce sont dans la majorité des cas des contenus violents, associant sexualité et violence, et qui présentent aussi beaucoup de distorsions cognitives. Donc, c'est vraiment faire le lit aux violences sexuelles. C'est aussi souvent les adolescents, les jeunes, les pré-ados, les ados vont se tourner vers ce type de contenu, aussi parce qu'il y a un manque de communication, un manque d'éducation à la sexualité, au consentement. Je crois que les enfants ont besoin qu'on respecte leur rythme, certes, par rapport à tout ça. Moi, je suis plutôt une maman très proactive et je crois que c'est mes enfants qui ont mis la limite à un moment en disant « Mais arrête de nous parler de tout ça, genre, on en a marre !» Et donc, moi, j'ai peut-être été un peu trop à l'inverse. Et donc, j'ai entendu que mes enfants avaient besoin aussi de leur temporalité. Il y a des moments où ils vont avoir vraiment un intérêt naturel. Et donc, saisir ça, être vraiment prendre le pouls de l'enfant pour sentir... Un moment, il va vous poser des questions. Un moment, ça va venir sur le tapis. Et donc, saisir ces opportunités, venir avec des supports. Maintenant, il y a des livres qui sont très bien faits. Je vais vous en mettre les références en dessous de l'épisode. Il y a aussi des petits films qui peuvent être très bien faits en fonction de l'âge. Donc, saisir ces moments d'intérêt spécifique de l'enfant pour venir le nourrir et lui montrer qu'en fait, on peut très bien avoir une relation apaisée à son corps, apaisée à la sexualité et qu'on n'a pas besoin d'aller se tourner vers des contenus pornographiques pour trouver des informations. C'est aussi une manière de prévenir et de protéger son enfant, c'est adopter un toucher respectueux avec son enfant. Il est prouvé qu'un enfant qui est touché, qui est massé, ça va prévenir les agressions sexuelles, mais ça va aussi diminuer la chance qu'un jeune, un adulte devienne agresseur. Parce que c'est finalement une construction de notre rapport à notre propre corps, à notre consentement et au corps de l'autre qui est essentiel. Et dans notre culture, le corps est tellement tabou, le toucher est tellement tabou. Aussi parce qu'il y a ce fond de trauma lié aux violences sexuelles. Mais du coup, je veux dire que d'être complètement coupé du corps, d'établir un tabou autour du corps, un tabou autour du fait de toucher son enfant, va être aussi un facteur de fragilité. Donc en fait, ce qui est intéressant, si vous vous en sentez capable, c'est d'avoir un toucher respectueux, c'est-à-dire de pouvoir sentir si l'enfant est OK ou pas, qu'il puisse le dire, mais c'est aussi le ressenti avec ses mimiques, avec la manière dont il va se tendre, se contracter ou au contraire se détendre. Il y a beaucoup d'indicateurs qui vont donner un message de oui ou de non dans le corps. Et donc c'est avec l'enfant pouvoir être d'abord dans le mouvement. On n'est pas obligé de le toucher, ça peut être aussi d'être dans le mouvement avec lui, puis ça peut être d'être dans un contact un peu à distance, c'est-à-dire déjà des mains à distance, tiens je suis là à côté de toi, je suis présent, présente, puis ça peut être un toucher qui peut être des massages, masser les pieds, masser les mains, ça c'est des choses qui peuvent être déjà peut-être un peu plus accessibles pour commencer. Et si vous vous sentez pas à l'aise, je vous invite à vous faire aider par des gens qui sont spécialisés des massages bébés, des massages enfants. Peut-être aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans le massage. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. On est allé voir une thérapeute psychocorporelle qui est masseuse et qui a cette dimension d'accueil psychocorporel. Et donc, elle est venue vraiment aider mon fils à se reconnecter à certaines parties de son corps et aussi à faire du lien entre nous deux pour retrouver un contact sécurisant, en fait. Donc ça, c'est des ressources qui peuvent être vraiment intéressantes. Ben voilà, on arrive tranquillement à la fin de ces épisodes qui concernent la prévention, l'accompagnement aussi autour des violences sexuelles. J'espère que ça aura pu vous aider. Je reste, et puis les personnes, toutes les femmes du collectif Féminin Naissance Royan Vercors, nous sommes à votre écoute. Si vous avez des questions sur ces sujets, si vous avez des problématiques, écrivez-nous, on répond à tout le monde. Je vais mettre toutes les ressources, aussi bien podcast que livre, que aussi une ressource qui est très importante, c'est si vous êtes face à une situation menaçante ou préoccupante, vous pouvez appeler le 119, c'est le numéro d'urgence. Donc je vais vous remettre toutes ces ressources sur le site de Radio Royan. Et voilà, merci.
Merci Stéphanie, à bientôt.